Deux morts et quatre disparus, c'est le bilan provisoire des intempéries de ces dernières 48 heures dans le Var et les Alpes-Maritimes, où de nombreux villages sont toujours noyés sous les eaux. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu dans le Var a notamment salué la réactivité des secours et des élus. Ce soir, la décrue est partout engagée et c'est un beau temps pour le Sud-Est que nous annoncera tout à l'heure Jean-Michel Golinski. Un incendie dans un immeuble d'Ivry-sur-Seine, près de Paris ce matin. Certains appartements avaient été transformés en squat. Il y a deux morts, un blessé grave. Oui, au principe de la retraite par points, le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, sur France Inter, défend une réforme systémique du système, mais il met en garde le gouvernement contre toute approche financière du dossier et lui demande de clarifier ses intentions. Priorité au Brexit à Londres pour Boris Johnson. Le Premier ministre a présenté son programme pour les élections du 12 décembre. D'abord, quitter l'Union européenne et puis tourner la page de l'austérité. En sport, Bordeaux, qui bat Monaco 2-1, prend provisoirement la troisième place de la Ligue 1. Saint-Etienne et Montpellier font match nul 0-0. Ce soir, le match Toulouse-Marseille. En rugby, le premier succès de Montpellier en Coupe d'Europe face à Gloucester. Un match nul du Racing sur le terrain du Munster. En tennis, du bon et du moins bon. Dans la nouvelle formule de la Coupe Davis, les organisateurs promettent des améliorations. Ce soir, l'Espagne mène 1-0 en finale devant le Canada. Le Journal des Sports avec aussi des épéistes français qui sont en pleine forme. Le Journal des Sports, c'est dans un instant avec Antoine Martin.
France Inter.
Au moins deux morts et quatre disparus dans le Sud-Est après les inondations de ces dernières 48 heures dans le Var et les Alpes-Maritimes, où à certains endroits il est tombé l'équivalent de deux ou trois mois de pluie. De nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit, notamment l'Argence, à Roquebrune-sur-Argence et au Muy. C'est là, au Muy, que l'un des deux corps sans vie a été retrouvé ce matin. Un homme tombé dans la soirée d'hier d'un canot de sauvetage. Le Muy qui reste encore ce soir partiellement noyé sous les eaux. Quentin Pérez de Tudela.
De nombreux habitants vident carrément leurs maisons, des meubles, des lits, des frigos, bref. Tout ce qui a été endommagé par les eaux se retrouve sur les trottoirs, car oui, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m dans certaines maisons, à peu près au niveau des interrupteurs. Alors on écope encore ce soir ce qu'il reste de cette eau avec les moyens du bord. On sort aussi des raclettes pour chasser la boue qui a été charriée. Beaucoup d'habitants sont à bout, ils avaient déjà connu la crue de 2010, celle d'hier pour eux. C'est donc celle de trop. Nadia, qui habite au Muy depuis 7 ans, me confiait tout à l'heure qu'elle envisageait sérieusement de partir. D'autres se sont aussi abandonnés, mais de leur côté, les secours font ce qu'ils peuvent. Les pompiers ont débuté les opérations de pompage, mais pas partout. Pour économiser leurs efforts, ils attendent que l'Argence, le fleuve qui a quitté son lit, continue sa décrue. Une décrue qui s'est bien amorcée puisque le niveau baisse de 10 à 15 cm par heure depuis le milieu d'après-midi.
Quentin Pérez de Tudela. Au total, selon la sécurité civile, les pompiers sont intervenus plus de 2000 fois dans les deux départements et ont procédé à 165 élitroyages. Des centaines de personnes avaient été préventivement évacuées, ce qui a permis d'éviter un bilan qui aurait pu encore être plus lourd. Un deuxième corps a été découvert ce matin sur la commune de Cabasse, toujours dans le Var, un homme d'une cinquantaine d'années, noyé dans sa voiture. Et c'est exactement ce qui a failli arriver à une famille sauvée in extremis du côté de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. C'est la maman Sonia qui raconte au téléphone de Marc Bertrand.
L'eau est arrivée et d'une rapidité, en fait, on voit ça qu'à la télé, on se dit que ça va jamais nous arriver. Et sincèrement, heureusement que mon mari a gardé son calme, on était tous paniqués dans la voiture. L'eau rentrait donc par le châssis de la voiture, donc un camion est passé par là. Mon mari nous a sortis par les vitres. Le camion donc nous a récupérés. Mais j'en profite pour le remercier énormément parce qu'il nous a littéralement sauvé la vie. Parce qu'en fait, au moment où on était tous les quatre dans le camion du monsieur, la voiture, on la voyait partir emportée par les eaux.
Plus de peur que de mal. Donc, quatre personnes sont en revanche encore portées, disparues. Parmi elles, d'ailleurs, un couple de personnes âgées de cette même ville de Grasse. Pour le reste, on sait déjà, comme l'a dit le préfet du Var, que les dégâts seront importants. Pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, venu se rendre compte de la situation sur place, il est trop tôt pour dresser un bilan. Il faut d'abord saluer la réactivité des secours et des élus.
En étant présent ici, je voudrais saluer d'abord nos forces de secours, nos pompiers, nos forces de sécurité civile, les associations de protection civile, les gendarmes, les policiers qui se sont mobilisés pour porter secours. Je voudrais saluer aussi l'engagement total des élus et dans le département du Var, des élus qui ont cette culture du risque, qui avaient organisé aussi des dispositifs de prévention et qui ont pu réagir très vite. C'est remarquable. C'est remarquable parce que ça n'est pas forcément partout présent. Et donc, quand on voit la multiplication des événements exceptionnels que nous subissons, il est important d'entendre cela et de voir combien des mesures de prévention et des mesures de protection peuvent permettre d'aller plus vite et de faire en sorte de sauver plus de vies.
Christophe Castaner au micro de Cyril Ardot. Ce soir, la décrue est partout bien engagée et elle devrait s'accélérer demain sous le beau temps dans tout le sud-est. Le bulletin météo, bien sûr, à la fin de ce journal. On notera que le mauvais temps a également fait des ravages en Italie ce dimanche. Plusieurs régions du nord de l'Italie ont été inondées. Ce matin, c'est une portion d'autoroute, un viaduc d'une trentaine de mètres qui s'est écroulé près de Savone en Ligurie, sans faire a priori aucun blessé, mais les recherches se poursuivent dans une épaisse couche de 2 mètres de boue. Et puis plus à l'est, Venise a de nouveau connu une grande marée, sans commune mesure toutefois avec celle du 12 novembre. 2 morts, 1 blessé grave, 4 autres personnes dont un enfant plus légèrement touché. Un immeuble d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne a été en partie détruit par un incendie ce matin, un incendie dont on ne connaît pas encore la cause. L'immeuble abritait des squats dont certains appartements étaient murés. Béatrice Duguay.
L'immeuble est ancien, il n'a pas l'air insalubre. Il a déjà connu un début d'incendie en mars dernier. Au rez-de-chaussée, les pompiers finissent de déblayer les décombres de l'appartement qui a brûlé en fin de matinée. Les restes calcinés d'un lit, d'une étagère, d'une lampe de chantier, 2 hommes sans papier ont laissé leur vie dans cet incendie. Un troisième est grièvement blessé. Ce sont les cris des locataires qui ont alerté Aïssa du sinistre.
J'ai entendu mes voisins qui sont en train de crier. Ils sont sortis en criant. J'ai dit, c'est pas l'habitude qu'ils ont qui sortent en criant. Je regardais, je vois ma voisine avec ses enfants qui sortent en courant. Les autres voisins, ça me fait un peu bizarre. Je regardais par la fenêtre, j'ai vu le feu, j'ai vu la fumée, j'ai vu de mes amis qui sont là, qui sont cassés la fenêtre là, pour sortir les gens à l'intérieur.
Ichra, lui, habite au premier étage de cet immeuble. C'est l'odeur qui l'a incommodé.
La santé, le matin à 10h comme ça. Les gens, ils sentent des gaz, mais on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Moi, j'habite au premier étage, moi et une autre personne, la santé. L'autre, elle est à partir à la cheville. Des garçons ont tapé, mais rien. Ils sont restés à l'intérieur jusqu'à mort. Ils sont 2 qui sont morts.
Le visage d'Ichra est très pâle. Il a beau dire qu'il ne connaissait pas beaucoup ces hommes et qu'il va bien. Il a l'air encore choqué, valise en vrac sur le trottoir.
Béatrice Duguay, le maire d'Ivry, dit n'avoir pas su que ce logement était occupé.
France Inter. Yves Decamp.
Réquisitionner les grévistes et pourquoi pas en cas de grève massive, la loi devrait l'autoriser. C'est en tout cas ce que propose le président des sénateurs républicains Bruno Retailleau qui le dit au JDD. Il va déposer une proposition de loi qui renforce le service minimum garanti à la SNCF et la RATP en prévision bien sûr du 5 décembre. La ministre du Travail Muriel Pénicaud a déjà répondu qu'il y avait des règles et qu'il suffisait de les appliquer. La grève du 5 décembre contre la réforme des retraites devrait être en tout cas extrêmement suivi si l'on en juge aux multiples appels à se joindre au mouvement, à quelques exceptions près, dont celle de la CFDT. Son secrétaire national Laurent Berger l'a répété sur France Inter, il soutient le principe du système universel à points, tout en appelant le gouvernement à faire la clarté sur ses intentions.
Depuis le début, on dit qu'il faut cette réforme universelle des retraites parce que les efforts ont été faits par les salariés dans les réformes précédentes. Aujourd'hui, vouloir courir 2 lièvres à la fois, d'accord, qui est la question de l'équilibre financier des retraites, qui n'est pas une question urgente pour la CFDT, et en même temps, vouloir créer ce système universel des retraites qui crée des interrogations parce qu'on bouge, parce qu'on change, eh bien c'est irresponsable, ça ne marchera.
Alors,
pas, et
précise.
Je m'y opposerai. En ce moment, c'est clair, il y a une forme d'affrontement qui est en train de se construire entre ceux qui veulent pas cette réforme-là, parce qu'ils considèrent que le système actuel est parfait, et moi je ne suis pas de ceux-là, et ceux qui pensent que, finalement, pourquoi s'emmerder, excusez-moi le terme, avec un peu plus de justice et d'équité, on le fera plus tard quand on aura d'abord fait travailler les gens plus longtemps. Moi je m'oppose à ça. Ce système universel des retraites, il peut être bon, pour tout un tas de gens qui sont aujourd'hui dans des régimes particuliers.
Laurent Berger sur France Inter ce midi dans Questions politiques. S'il devait y avoir une mesure paramétrique dans cette réforme, ajoute le secrétaire national de la CFDT, une mesure visant à faire des économies, alors il appellerait les salariés à se mobiliser. Un discours évidemment très différent de celui de son homologue de la CGT, Philippe Martinez, opposé quoi qu'il arrive au principe du système universel et dont l'appel à se mobiliser, dit-il, va bien au-delà de la défense des régimes spéciaux. Philippe Martinez qui accuse Emmanuel Macron de vouloir diviser les Français.
Arrêtons cette petite musique, notamment au niveau du gouvernement, parce que c'est un truc que j'entends là depuis quelques jours, que la CGT refuse de discuter. Nous, on veut une amélioration du système de retraite. Mais en tout cas, c'est une vraie fracture dans notre pays, cette réforme. C'est un changement profond. C'est la réforme des retraites pour les premiers de cordée. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, quasi totalité de sacrifiés avec. C'est un accroissement des inégalités, c'est un accroissement de la pauvreté. Cette réforme va toucher tout le monde. Et donc c'est le président de la République qui devrait être le président de tous les Français essaie de diviser les Français. La réforme, elle touche tout le monde, y compris les retraités, y compris les futures générations, vous l'avez compris. L'équité, c'est de baisser les pensions de tout le monde, c'est de nous faire travailler plus longtemps. Ça, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord.
Philippe Martinez sur LCI. En attendant le 5 décembre, préavis de grève demain à Radio France. Rien à voir avec les retraites. 5 syndicats ont appelé à la grève reconductible contre le plan d'économie de la présidente Sybille Veil et notamment la suppression sous la forme de départ volontaire de 299 postes. Les antennes de France Inter, France Info, France Culture et des France Bleu pourraient donc être perturbées dès demain matin. En bref, également une super prise de guerre pour LVMH. Le géant français du luxe rachète le célébrissime joaillier américain Tiffany. La chaîne américaine CNBC annonce qu'un accord a été conclu pour la modique somme de 16,3 milliards de dollars. Et puis Amazon contre-attaque contre le mouvement Attaque. Le géant américain du commerce en ligne réfute en bloc les accusations portées contre lui par Attaque, mais aussi par les Amis de la Terre et le syndicat Solidaire. Accusations portant sur ses stratégies d'optimisation fiscale, ses pratiques sociales et son très lourd impact environnemental. Autant d'erreurs et de spéculations selon la multinationale qui dit acquitter l'ensemble des impôts et taxes exigibles en France, où elle serait devenue un employeur majeur générant des dizaines de milliers d'emplois. Il y a deux jours, l'ancien secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi disait exactement le contraire en expliquant qu'Amazon détruisait des emplois. Quant au bilan carbone de l'entreprise, il n'est pas sous-évalué pour Amazon qui dit avoir investi dans le développement durable depuis des années. À l'étranger, à Londres, demander le programme de Boris Johnson, le Premier ministre qui dit vouloir offrir un projet de loi sur le Brexit en cadeau de Noël aux Britanniques, doit d'abord gagner les élections du 12 décembre. Et si c'est le cas, il promet d'aller vite, de quitter l'Union européenne fin janvier et d'investir ensuite dans les services publics. Marina Daras.
On attendait de grandes promesses sur le Brexit. Boris Johnson a effectivement annoncé qu'un nouveau vote sur l'accord de retrait serait organisé avant Noël si son parti remporte une majorité de sièges. Get Brexit done, faire du Brexit une réalité, était le slogan martelé tout au long de son discours.
Get Brexit done. Faites du Brexit une réalité et nous pourrons enfin nous concentrer sur les priorités des Britanniques. Et aujourd'hui, dans ce manifeste, nous promettons 50 000 infirmières supplémentaires. Nous garantissons au peuple britannique que nous nous attaquerons aux crimes avec 20 000 policiers supplémentaires et que nous améliorerons notre système d'immigration avec un système à points similaire au système australien. Nous investirons des millions de livres supplémentaires chaque semaine dans les sciences, les écoles, l'apprentissage et les infrastructures, tout en contrôlant nos dettes.
Mais le manifeste des conservateurs reste malgré tout assez modeste et sans grandes ambitions. Les annonces visant les taux d'imposition n'ont de but que de faire opposition aux dépenses promises par les travaillistes qui veulent renationaliser un nombre important de services. Conserver les acquis plutôt que de réformer semble être la nouvelle stratégie du Parti conservateur pour ces élections. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
Un nouveau candidat à l'investiture démocrate aux États-Unis, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, 77 ans. Il dit vouloir battre Trump et mettre un terme à sa politique irréfléchie. Sa candidature s'ajoute notamment à celle de l'ancien vice-président Joe Biden et aux sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Et puis le pape, hostile à la dissuasion nucléaire, c'est une nouveauté par rapport à ses prédécesseurs. Le pape François, en visite sur les sites d'Hiroshima et Nagasaki, a pardonné deux fois aujourd'hui dénoncé l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires, qualifiant le principe de la dissuasion de fausse sécurité. Le souverain pontife qui rendra demain hommage aux victimes du tsunami en 2011, tsunami qui fut à l'origine de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Sur les routes du dimanche soir, ça va mieux dans le sud-est, Caroline Félix.
Oui, pour rappel, ce soir, il n'y a plus que le Var et le Puy-de-Dôme qui sont en vigilance orange pluie inondation. Il y a tout de même trois échangeurs qui sont fermés sur l'autoroute A8 et il y a des retards sur les lignes TGV, mais 80% du trafic ferroviaire devrait être rétabli demain d'après la SNCF. Sinon, en région parisienne, on frôle les 200 km de bouchons et ça coince particulièrement sur l'A13 en arrivant à Paris. Il y a un véhicule en feu à Feucherolles. Comptez une demi-heure entre Orgeval et Roquencourt contre 7 minutes habituellement.
Caroline Félix au PC Mobilité de Radio France. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Un lundi au soleil, ce sera effectivement le cas demain pour le golfe du Lion jusqu'à la Provence et dans la vallée du Rhône. Des conditions de temps sec qui vont favoriser la poursuite de la décrue suite à l'épisode méditerranéen du week-end. Mais sur le reste du pays, le parapluie va servir avec le passage d'un temps pluvieux, déjà en approche ce soir par la façade atlantique. Demain, cette zone de pluie va traverser le pays dans toute sa largeur, faisant la jonction avec les frontières de l'Est en fin de journée. À l'arrière, retour l'après-midi sur les régions de l'ouest d'un ciel variable avec averse. Et puis, avant l'arrivée des pluies, la moitié est va conserver un ciel clément. Ce flux océanique sera relativement doux, sans aucune gelée la nuit prochaine en pleine. Et en journée, les valeurs seront pratiquement partout au-dessus des moyennes.
En rappelant le bilan humain provisoire des intempéries dans le sud-est, dans le Var principalement, 2 morts et 4 disparus. 19h17, on passe au sport. Avec vous, Antoine Martin, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Le football et la Ligue 1 de retour après la trêve internationale, suite et fin de la 14e journée ce dimanche.
Et oui, il y avait deux matchs à 15h. Bordeaux a battu Monaco 2-1, les Girondins, qui sont 3e du championnat. À 17h, triste match nul entre Saint-Étienne et Montpellier 0-0. Ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui peut reprendre sa deuxième place au classement. Déplacement au Stadium de Toulouse pour les hommes d'André Villas-Boas, qui doit faire avec de nombreuses absences en défense. Le club de la Canebière est le plus sanctionné de Ligue 1. Trois suspendus ce soir, les centraux Caleta-Char, Gonzalez et Amavi. Et dans un effectif très limité en quantité, l'entraîneur portugais va devoir bricoler sa charnière.
Je ne m'inquiète pas trop sur ça. Ce que je m'inquiète, c'est les suspensions et les blessures. Dans un effectif comme ça, on doit continuellement s'adapter. Je pense que la concentration est là, la motivation aussi. Et je pense que cette match a une ambiance décisive pour nous. Alors j'espère qu'on était à notre meilleur niveau pour sortir de là avec les 3 points. J'espère qu'on va continuer. C'est très important pour nous maintenant d'enchaîner une série de victoires. Mais la réalité, c'est qu'on se trouve dans une situation précaire de la ligne défensive.
Toulouse-Marseille, c'est ce soir à 21h. Hier, Angers a pris provisoirement la deuxième place du championnat en battant la lanterne rouge Nîmes 1-0. Paris a toujours 9 points d'avance au classement sur ses concurrents. Les Parisiens ont battu Lille vendredi soir 2-0. Préparation idéale avant le rendez-vous en Ligue des Champions, mardi à Bernabéu pour défier le Real Madrid de Zidane et Benzema. Lyon a aussi gagné contre Nice 2-1. Les Lyonnais iront à Saint-Pétersbourg mercredi. Lille, éliminée de la Ligue des Champions, recevra l'Ajax Amsterdam.
Et puis c'est toujours un événement, la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des Champions de l'Amérique du Sud, qui regroupe les toutes meilleures équipes. Scénario dingue hier soir à Lima au Pérou, entre les Brésiliens de Flamengo et les Argentins de River Plate.
On dit souvent qu'un match se joue durant 90 minutes ou plus. Hier, River Plate défendait son titre à Lima au Pérou. La finale encore une fois délocalisée pour des raisons de sécurité. L'an dernier déjà, River Boca s'était joué à Madrid. Les Argentins qui avaient la main sur le trophée durant 89 minutes. Mais un doublé de Gabriel Barbosa, prêté par l'Inter Milan, offre le trophée à Flamengo. Les Brésiliens ou la ville de Rio qui bouillonne depuis cette nuit folle. 38 ans que les Brésiliens n'avaient plus remporté la Copa Libertadores.
En rugby, deuxième week-end de Coupe d'Europe pour les clubs français.
Oui, avec Vincent Pellegrini, on va faire le bilan des clubs français sur ce week-end. On commence à voir les premières tendances après deux journées. Bilan contrasté pour les clubs français, les expérimentés comme Toulouse, le Racing 92 et Clermont s'en sortent bien.
Oui, alors des six équipes françaises engagées, le Stade Toulousain est la seule à avoir engrangé deux succès. Hier, devant leur public, les champions de France en titre ont dominé les Irlandais du Connacht, 32 à 17 avec un point de bonus offensif à la clé. Ils sont en tête de leur groupe, tous les voyants sont au vert pour les coéquipiers du demi d'ouverture international, Roman Tamak.
C'est une bonne opération, on sait très bien qu'en cette Champions Cup, un faux pas, c'est quasiment élimination, donc on n'a pas le droit à l'erreur, et même si on s'est fait un peu peur, on est encore à deux victoires en autant de matchs, donc c'est très bien.
Le Racing 92 a également bien négocié ce début de Coupe d'Europe, après un large succès face aux Saracens, les Franciliens ont décroché un précieux match nul, 21 partout chez les Irlandais du Munster. Cet après-midi, les Montpelliérains ont préservé leur chance de qualification en dominant les Anglais de Gloucester, 30 à 27, Clermont battu 18 à 13 vendredi soir par les Irlandais de l'Ulster. Clermont a grillé un joker mais reste en course pour la qualification. Deux clubs français en revanche sont déjà en très grande difficulté dans cette Champions Cup. D'abord La Rochelle, déjà lourdement battue le week-end dernier à domicile par les Anglais d'Exeter. Les Rochelais se sont de nouveau inclinés cet après-midi sur la pelouse d'un autre club anglais, Sale, 25 à 15. Deuxième défaite également en deux journées pour Lyon, la huitième d'affilée dans cette Champions Cup. Hier, les Lyonnais ont subi la loi de l'un des grands favoris de la compétition, les Irlandais du Leinster, 13 à 6. Les chances de qualification pour les quarts de finale sont désormais très minces pour les joueurs de Pierre Mignoni, pourtant leader du championnat de France, même si le capitaine et demi-mêlée du Loup, Baptiste Couillou, estime que son équipe a encore un avenir dans cette Coupe d'Europe.
On a quatre très beaux matchs qui arrivent. On est capable de gagner contre n'importe quelle équipe dans ce groupe. C'est pas moi qui vais vous dire qu'on va abandonner et qu'on va passer au top 14. Bien au contraire, je pense qu'on doit encore faire nos preuves dans cette compétition. Et on sera présent sur les prochains matchs. Vous pouvez compter sur nous, je pense.
Les deux prochaines journées de cette Coupe d'Europe se disputeront au mois de décembre après une journée de top 14 programmée le week-end prochain.
En tennis, la nouvelle formule de Coupe Davis a fait couler beaucoup d'encre. Alors, qu'en est-il ce dimanche après la première édition qui s'achève, Antoine?
Déjà un bilan reluisant pour nos Bleus qui ont été éliminés au stade des phases de poule. Et ensuite, en tribune, elles ont souvent sonné creux cette semaine à Madrid. Les supporters français, d'ailleurs, ont boycotté l'événement. Pour Arnaud Clément, ancien joueur et ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, lui, il n'est toujours pas en phase avec cette révolution. Il pointe du doigt le manque d'engouement du public pour la nouvelle formule.
La présence du public qui a été complètement absent pendant toute la semaine. On va simplement mettre à part les matchs de l'Espagne qui jouent à domicile. Mais pour toutes les autres rencontres, ça a été très compliqué. La première demi-finale hier, c'était même pas à moitié plein, le stade. Donc forcément, on ne retrouve pas d'ambiance en fait. C'est très compliqué pour la suite. Et après, il y a un deuxième élément qui a été mis en avant pour ceux qui voulaient être très positifs là-dessus, c'est la présence des meilleurs. Alors il y avait cinq top 10, il y avait donc 11 top 20. Donc non, les meilleurs n'ont pas plus joué cette année que les années précédentes. Et le public a été complètement absent. Donc je ne pense pas que la compétition peut survivre, en tout cas dans le futur, dans les années qui viennent, justement à ce désintéressement du public.
Actuellement, la finale de la compétition oppose l'Espagne de Rafael Nadal, grande favorite, à domicile contre le Canada qui dispute sa première finale de Coupe Davis.
L'Espagne qui mène 1-0 pour l'instant. Un week-end mitigé pour l'équipe de France d'escrime engagée sur la piste du Palais des Sports d'Orléans pour la première étape de la Coupe du Monde de sabre féminin.
Après la victoire de Manon Brunet en individuel hier, les tricolores se sont contentés de la cinquième place par équipe. La qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Tokyo attendra. Fabrice Rigobert.
Terminer à l'une des quatre premières places du classement mondial ou finir meilleure nation européenne avant le mois d'avril, les championnes du monde 2018 ont laissé passer leur chance de faire un grand pas vers les Jeux. La faute à une petite touche qui a manqué face à l'Ukraine en quart de finale. Victorieuse hier en individuel, Manon Brunet n'avait plus les mêmes sensations.
J'étais un peu dans le moins bien. J'avais mal aux pieds, plus de jus, donc je me suis accrochée au fur et à mesure des matchs à revenir, mais ça revenait un peu tard, quoi. C'est dommage, on avait le niveau pour les battre, mais bon, c'est le début de saison, c'est quand même bien tout ce qu'on a fait, donc faut pas prendre ça comme un échec. On est déçus, mais il y a du bon.
Pas question de se contenter de ce résultat. Il faudra aller chercher plus loin dans les détails, explique Cécilia Berder. Éliminée hier en huitième de finale en individuel et très frustrée par ce résultat collectif.
Techniquement, tactiquement, on se vaut un peu toutes. Mais dans le détail, ça va être un bras un peu plus relâché, une position un peu plus précise. Moi, c'est ce détail-là que je dois creuser. Ce week-end est très décevant, alors que finalement, on perd d'une touche et que ça ne se joue pas à grand-chose. Mais je ne peux pas me permettre de dire que la pièce n'est pas tombée du bon côté. Non, je dois être plus performante, je dois être meilleure. Les gens me disent que c'est un encourageant, que c'était bien, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais gagner, moi, et j'ai pas gagné. Donc je suis déçue, et je sais que je peux faire mieux.
Rendez-vous dans 3 semaines aux États-Unis. Les Françaises, qui ont sauvé la 5e place aujourd'hui, ont rétrogradé à la 3e place du classement mondial, sous la menace de l'Ukraine et de la Hongrie.
Les fleurettistes françaises ont remporté aujourd'hui la médaille de bronze par équipe. L'escrime tricolore qui a décroché le bronze en fleuret dames hier. Et à l'épée messieurs, à noter que l'équipe de France à l'épée masculine a remporté le tournoi par équipe de Berne et est quasiment qualifiée pour les JO de Tokyo.
En ski alpin, il avait laissé entrevoir de belles promesses l'été l'an dernier. Le skieur Clément Noël a été tout proche de s'imposer pour sa rentrée en compétition.
Oui, on pense déjà à cet été. C'est sur le slalom de Lévis en Finlande. Il n'était pas certain d'être en forme physiquement, car une blessure au dos le gênait en préparation. Mais le jeune skieur de 22 ans, deuxième de la Coupe du Monde l'an dernier derrière la légende autrichienne Marcel Hirscher, il a encore une fois terminé deuxième aujourd'hui à 9 centièmes du vainqueur, le Norvégien Henrik Kristoffersen. Pourtant, vainqueur de la première manche, le Vosgien a commis une erreur fatale dans la seconde qui lui prive de la victoire, mais il n'était même pas certain de se bagarrer pour la victoire.
Bon, je ne m'attendais pas à grand-chose. En fait, on est toujours un peu dans l'incertitude quand ça approche la première course. Après, j'ai vraiment eu des super sensations à la première, donc j'étais pas forcément surpris d'être devant, mais content. Et c'est bien que le ski soit là dès le début de saison. Après la deuxième, il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, mais c'est déjà pas mal.
Déjà, vous êtes rassuré sur le plan physique ?
Ouais, sur le plan physique, sur le plan du niveau de ski, même avec un tout petit peu moins de jours de ski, je m'en sors bien. Et puis je peux envisager la suite assez sereinement.
Élu meilleur jeune de la saison dernière par la Fédération internationale de ski, Clément Noël débute très bien sa nouvelle saison. Il fait partie des prétendants quant à la succession de la légende Marcel Hirscher.
Du cyclisme maintenant avec une équipe française qui réalise un incroyable mercato, ce sont les Bretons d'Arkéa Samsic.
Oui, c'est déjà la période des stages d'avant-saison pour les équipes professionnelles. L'équipe française Arkéa Samsic s'est ainsi réunie toute la semaine à Bru, près de Rennes. Une formation ambitieuse, auteur d'un gros recrutement, puisque c'est le Colombien Nairo Quintana, 2 fois 2e du Tour de France, vainqueur du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne, qui rejoint l'équipe. Il y a aussi le sprinteur français Nasser Bouani qui quitte Cofidis pour Arkéa Samsic. Arkéa Samsic qui a conservé également le champion de France Warren Barguil, tout heureux de voir son équipe se renforcer.
La première année que je suis arrivé, c'était le commencement pour moi d'une nouvelle aventure. Et ouais, j'ai cru en ce projet, donc je suis resté. J'ai re-signé aussi pour 3 saisons. Donc ouais, c'est super, super cool pour moi qui est breton, de voir une équipe qui grandit comme ça chaque année, c'est top.
L'arrivée de Nairo Quintana, comment vous l'avez pris, cette arrivée-là ?
Bah bien, avec soulagement. Pour moi, c'est bien parce que forcément, on me demandait de faire du résultat sur toutes les courses où je courais. Et à la fin d'année, on va pas dire fini un peu épuisé, mais pas loin. Et là, c'est bien, on va pouvoir avoir deux grimpeurs. Et je pense que c'est vraiment bien pour l'équipe avec l'objectif qu'on a derrière aussi.
Allez, on termine, Antoine, avec de la voile et la Brest Atlantique. Grande boucle dans l'Atlantique de 22 000 km. C'est le maxi Edmond de Rothschild emmené par Franck Camas et Charles Caudrelier qui est toujours en tête.
Oui, le duo compte moins de 2000 milles d'avance sur la flotte actuelle leader composée de Yves Leblévec et Alex Pella. Joint par téléphone, Franck Camas et Charles Caudrelier profitent des bonnes conditions météorologiques avant d'affronter le terrible poteau noir au large du Cap Vert dans quelques jours. Zone décisive avant l'arrivée à Brest.
On approche de l'équateur sur le chemin du retour. On est dans les alizés du sud-est là. C'est assez long depuis quelques jours parce que c'est une grande distance et le vent est vent arrière, donc on doit tirer des bords. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien, il fait beau, la chaleur est là, donc on est content. Avant le Cap-Vert, il y a cette zone sans vent qui s'appelle le poteau noir. Et il y a des gros orages, le vent est complètement instable, donc c'est une zone qu'on redoute un petit peu, parce qu'on sait pas comment ça va se passer, on peut rester quelques heures arrêté et le reste de la flotte revenir, donc c'est pas une zone facilement gérable, mais on doit passer par là, on n'a pas le choix, et donc on va faire ça au mieux.
Les 3 bateaux encore en course devraient rejoindre la rade de Brest dans 10 jours.
Et c'est la fin de ce journal des sports. Merci à vous, Antoine Martin.